C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
6h04, mercredi 4 mai. Bonne journée, bienvenue au 98.5. On a une journée de pluie, ça a commencé au cours de la nuit. Faible pluie sur le centre-ville de Montréal. Cette pluie, d'ailleurs, devrait cesser au cours de l'après-midi. Maximum aujourd'hui, 17 degrés. Il y aura un dégagement en soirée. Et là, on amorce une période de journée beaucoup plus agréable avec du soleil. Demain, 17. Du soleil, vendredi, 17. Et pour tout le week-end, on prévoit des températures quand même 16-17 degrés. Et du temps ensoleillé. Et même lundi, on devrait nager dans le 24-25 degrés avec quand même beaucoup de soleil. Le point, bien sûr, sur la guerre en Ukraine. D'abord, il y a des discussions très, très importantes entre les pays européens pour une espèce de consensus afin de renoncer au pétrole russe. On parle de calendrier d'ici la fin de l'année, le pétrole brut, mais aussi les produits dérivés. Et entre-temps, les Russes continuent de lancer des frappes massives de missiles contre plusieurs villes. On fait le point donc avec Tetiana Ogarkova, qui est toujours en Ukraine. Tetiana, bonjour.
Bonjour.
Alors, d'abord, parlons donc de ces opérations militaires, des missiles qui ont touché 8 régions en Ukraine hier soir.
Oui, tout à fait. Hier, il y avait une alerte aérienne prolongée, en fait, sur tout le territoire de l'Ukraine. Ensuite, nous avons bien appris que dans huit régions, il y avait des frappes de missiles, y compris à Kyiv, dans la région de Kyiv, mais aussi Vinnytsia, Lviv, et même la région de Transcarpathie, c'est-à-dire l'extrémité ouest du pays. Dans plusieurs endroits, notamment à Kyiv et Vinnytsia, les missiles n'ont pas arrivé à leur but, en fait, puisqu'ils étaient détruits par le système de la protection aérienne ukrainienne. Ça prouve déjà l'efficacité, en tout cas partielle, de notre défense aérienne. Malheureusement, à Lviv, il y avait beaucoup de destruction, notamment sur les voies ferrées, et dans d'autres endroits, dans 6 endroits, en fait, en Ukraine, les voies ferrées, les stations des voies ferrées ont été endommagées ou détruites. Ça prouve que l'idée est de détruire en fait le système de réseau, le système de transport en Ukraine. C'est un peu un geste de désespoir puisque on voit que sur la ligne de front, il n'y a pas beaucoup d'avancées. Il y a des pertes de plus en plus importantes du côté de l'armée russe, ce qui est prouvé par les interceptions des conversations téléphoniques entre les soldats et même les officiers russes et leurs familles en Russie. Ceci est publié tous les jours. On voit qu'il y a vraiment des graves problèmes pour l'armée russe, mais en même temps, il y a cette attaque. Pour l'instant, il n'y a pas d'informations sur les blessés et morts. Il y a quelques blessés, mais légèrement. Mais mes collègues, même se trouvant à Lviv, ont pu constater justement, on se trouve dans la grande ville à Lviv et on voit les missiles voler dans l'air. Donc, c'est une image effrayante, bien sûr, mais qui est malheureusement devenue notre réalité.
Maintenant, parlons de Mariupol. Qu'est-ce qu'on sait, Tetiana, sur l'évacuation des civils?
Ici, on continue à rester malheureusement dans le flou, puisqu'on sait que 156 civils sont bien à Zaporijjia, mais ceci depuis hier. Mais après, il y a d'autres, donc le nombre est estimé jusqu'à 2000 habitants de Mariupol qui devaient être sur la route, qui sont peut-être partis, en tout cas on nous a dit le chiffre de 14 bus qui sont partis hier, mais qui ne sont plus, toujours pas à Zaporijjia. Donc, grand point d'interrogation. Côté ukrainien, il y a l'information que l'évacuation se poursuive. Sans doute, les gens se trouvent quelque part entre Mariupol et Zaporijjia, mais il n'y a pas de point définitif ici. Par contre, ce qui est à l'intérieur de Mariupol, ce qui est déjà prouvé que les assauts de Azovstal se sont repris, en fait, ceci est constaté sur place, que l'armée russe, et plus exactement même plus l'armée russe, parce qu'il y avait un retrait partiel des troupes russes de Mariupol, il y a l'armée de ces républiques autoproclamées de la DNR, la République de Donetsk, qui sont présents sur place, ils essayent de faire l'assaut de cette usine, mais en même temps, on constate les travaux de nettoyage et de la préparation de la ville de Mariupol pour la parade de 9 mai, c'est-à-dire que la Russie, et ceci est confirmé par notre enseignement ukrainien, ils veulent faire une parade de la victoire le 9 mai à Mariupol. Et il n'y aura pas de parade à Donetsk. Donc, on constate aussi la présence de journalistes de propagande, ben, les acteurs de propagande russes sur les lieux. Vladimir Solovyov, il est très connu comme animateur de télévision russe, un des propagandistes les plus connus, les plus célèbres en fait. Il est sur les lieux à Mariupol, donc il prépare quelque chose.
Très bien, on va suivre ça avec grand intérêt. Merci beaucoup, Tetiana Ogarkova, qui est journaliste. Maintenant, ici, Radio-Canada nous apprend que Martin Prudhomme, l'ancien directeur général de la Sûreté du Québec, refait un retour donc avec la police à Montréal, pas comme chef de police, mais comme directeur général adjoint associé à la sécurité publique. L'annonce va se faire un peu plus tard ce matin par la mairesse de Montréal, Valérie Plante. Essentiellement, la ville a créé le poste. Il a été affiché. Martin Prudhomme a déposé sa candidature, puis il a été retenu. Alors, c'est quoi la job? La job, c'est de s'occuper de la police, des pompiers, entre autres. Il y a une négociation qui s'en vient, qui est majeure là, avec la fraternité. Donc, des responsabilités de gestion, des responsabilités administratives, mais pas opérationnelles. Donc, il n'est pas question, c'est pas le nouveau chef de police. Au contraire, il va devoir travailler pour sélectionner le prochaine personne, homme-femme, qui dirigera le service. Et dans cette entrevue à Radio-Canada, il rappelle qu'il est Montréalais, qu'il a toujours eu de bons contacts avec l'administration de Valérie Plante et qu'il est très heureux de revenir dans ses nouvelles fonctions. Rappelons-nous quand même la traversée du désert, quand on l'avait relevé de ses fonctions. Je commenterai pas à outrance le processus, là, parce qu'il y a eu un règlement, puis les partis ont convenu de ne pas en discuter sur la place publique. Mais quand vous gardez quelqu'un assis sur une tablette, puis que l'enquête criminelle aboutit à rien, puis qu'il y a des procédures administratives pour le moins douteuses, là, puis finalement, on règle, c'est quand même 3 ans ou environ là, d'une vie qu'on a mis de côté. Sans parler, puis je rappelle, là, c'est un ami personnel, fait que c'est sûr que j'ai un billet, là, mais sans parler d'une perte d'expérience puis d'expertise pour la société québécoise. Alors donc, il fait un retour au sein de la police, mais comme administrateur, gestionnaire, dans un poste de DG adjoint à la ville de Montréal. Bon, puisqu'on parle de la mairesse de Montréal, on va revenir sur le dossier du REM. Pourquoi? Parce que hier, le président de la Caisse de dépôt et de placement, Charles Aymon, est venu dire en commission parlementaire à Québec que la mairesse avait changé d'avis en 10 jours sur le REM. Je le cite, « J'ai rencontré la mairesse il y a environ un mois pour lui faire une proposition de structure de gouvernance. Elle voulait que la Caisse s'occupe du transport et elle de l'aménagement. Elle était ravie de cette proposition. Et une dizaine de jours après, elle a appelé le gouvernement pour dire « Je veux un autre projet. » J'avais abordé la question de l'absence de la ville de Montréal à l'époque, et je demandais à Mme Plante pourquoi il vous tasse. On va écouter l'échange que j'ai eu avec elle.
Ça fait un an que je demande d'être autour de la table et d'avoir des sommes parce que présentement, j'ai aucun bureau de projet. La ville de Montréal, au niveau de l'aménagement, on accuse du retard, puis il faut que ça se fasse en même temps, le projet. Alors, c'est pour ça qu'il faut qu'on soit là. Et clairement, ben, je veux que la CDPQ se prononce. Je veux qu'elle le dise clairement, franchement. Est-ce que oui mais, ou non, okay, la ville
mais,
a sa place?
OK, mais visiblement, ils ont l'air de répondre non en refusant de vous ouvrir
mais
la porte.
Mais qu'ils le disent publiquement.
OK, mais savez-vous pourquoi ils ne veulent pas vous voir là?
Bien, ce qu'ils disent, en fait, ce qu'on comprend, là, je me base sur les déclarations publiques, c'est que pour eux, ils s'occupent du train, c'est ça leur expertise. Mais c'est quand même fascinant parce que tout ce qui a été montré en ce moment, la réussite du projet de transport mise sur l'aménagement. Et l'aménagement, c'est la ville de Montréal et ils le disent. Alors, je m'explique mal pourquoi la CDPQ ne voudrait pas avoir la ville qui, elle, est experte en aménagement pour faire en sorte que leur projet, okay, notre projet, soit un succès.
Voilà. Mais M. Aymon nous dit on avait une entente. Elle était d'accord, ravie de la proposition du rôle de la ville dans l'aménagement. Alors, elle ne nous a pas tout dit. Est-ce qu'on l'a déjà entendu s'opposer au projet? Moi, de mémoire, à chaque fois j'ai parlé de ça avec elle, incluant le centre-ville, c'était jamais de rejeter le projet, c'était de dire il faut trouver des aménagements, puis dans le secteur Mercier, puis tout ça. Alors, semble-t-il, selon la Caisse, 10 jours après l'échange avec le PDG, elle change d'idée. Et là, on voit des tensions, bien sûr. Et quelle sera la suite? Ben là, on en a discuté hier avec la nouvelle structure de gouvernance pour aboutir d'un projet. Puis l'idée, là, c'est toujours la même. Comment offrir du transport en commun de qualité, efficace, rapide pour les gens de l'Est de Montréal à un coût qui a de l'allure? Des citoyens qui sont pénalisés, les gens qui habitent dans Pointe-aux-Trembles, des gens qui sont vraiment dans l'Est de Montréal, comment on leur offre un accès le plus rapide possible au centre-ville, mais aussi au centre de l'île de Montréal? Alors, le président de la Caisse sera avec nous aussi. Le débat sur l'avortement, il faut en parler parce que cette fuite d'un document de la Cour suprême des États-Unis, fuite qui a été confirmée par la Cour suprême, qui a dit en même temps, on va déclencher une enquête parce que c'est inadmissible, un. Deux, oui, c'est vrai ce qui est écrit là-dedans, mais c'est pas coulé béton. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est qu'on est en train de préparer une décision qui va renverser un arrêt de la Cour qui autorisait des avortements aux États-Unis. Là, ce qu'on est en train de préparer, c'est de dire, et là, il y a tout un argumentaire là, qui dit que ça n'a aucun sens, que ça viole les droits et qu'il n'y a aucun fondement juridique pour soutenir ça. Ça date de 1973. La conséquence, ce sera de dire aux femmes qu'ils veulent avoir une interruption de grossesse. Dans certains États, ça sera permis. Dans d'autres États, ça ne sera pas permis. Il y a des restrictions. Il y a eu, par exemple, des mesures qui ont été annoncées dans les dernières heures. Il y avait déjà la loi au Texas. Mais vous avez aussi, par exemple, pour trouver le nom, c'est en Oklahoma, où après 6 semaines, c'est interdit. Ça, c'est la première chose. La deuxième, et on peut inclure le Canada là-dedans, parce qu'il y a la question du droit, puis il y a la question de l'accès. Si le Canada reconnaît le droit à une femme d'avoir un avortement, l'accès n'est pas uniforme et pas toujours facile. Et donc, c'est beau de dire que c'est permis, mais en même temps, faut-il avoir les ressources pour le faire? Et le Canada, il y a un taux, un consensus assez fort dans la population. Il y a des minorités, mais ils ne sont pas aussi organisés qu'aux États-Unis. Et hier, vous avez vu la chef intérimaire du Parti conservateur qui a dit « Moi, je ne veux pas entendre mes députés sur cette question-là. » Parce que c'est une question qui les déchire. Puis ces députés qui s'alimentent de la droite religieuse, évidemment, sont toujours assez prêts à... Puis on l'a vu là dans les dernières années, je dirais, des différents leaders qui ont été, autant Scheer que O'Toole, qui ont été pognés avec la question de la droite religieuse. Alors voilà pour ce qui est du débat sur l'avortement. Autre dossier maintenant ici... Le masque, point de presse aujourd'hui du docteur Boileau. Et on va annoncer que dans 10 jours, ce sera terminé l'obligation, sauf transport en commun, les hôpitaux, Radio-Canada, le Journal de Québec donnaient déjà les grandes lignes. Ce qui fait que il n'y aura pas l'obligation, mais pour certaines personnes, ce sera fortement recommandé. Et la question que je vous pose ce matin, dans 10 jours, là, le 14 mai, avez-vous l'intention de foutre le masque à la poubelle, de dire c'est terminé, puis là, c'est fini vraiment, ou de le garder dans certaines circonstances. Je regardais des sondages l'autre jour, là, puis des gens qui disaient, ah ben, va dépendre, si je me retrouve dans un endroit clos, où il y a pas mal de monde, ça se peut que je le garde. Je veux pas être jugé, je veux pas avoir des commentaires ou des regards désobligeants. Ça serait intéressant de voir jusqu'à quel point cette habitude, parce que ça devient une habitude, on le voit dans d'autres pays, c'est comme... fait partie un peu d'un mode de vie dans des sociétés où il y a des virus, puis je ne parle pas toujours de COVID, là, mais on l'a vu beaucoup en Asie. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui vont garder quand même le masque? Point de presse au cours de l'après-midi. Également, je vais revenir tantôt sur cette histoire de vol d'hélicoptères, des vols touristiques. C'est des gens qui partent de Saint-Hubert puis qui s'en vont voir le fleuve puis la ville de Montréal. Mais au début, les gens de Longueuil étaient furieux parce que, disaient-ils, ça fait tellement de bruit, puis la fréquence est élevée, puis ça nous dérange. Alors bref, ils ont négocié avec la compagnie qui s'appelle Helicraft. On va parler avec le PDG qui s'appelle Jimmy Joubert. Et on a un nouveau parcours. Sauf que le parcours est sur le bord de la 20, puis 132 le fleuve. et tu te retrouves où? À Saint-Lambert. Puis on sait qu'à Saint-Lambert, la question du bruit est fondamentale. Rappelez-vous les épisodes avec les concerts, avec le Grand Prix de Formule 1. Là, les hélicoptères dérangent, la mairesse est furieuse, elle s'appelle Pascale Mongrain, elle dit « on va tout faire pour faire cesser l'activité ». Et le promoteur lui dit « ben, c'est parce qu'on a le droit, c'est légal, à 1000 pieds d'altitude en tout temps ». Alors, et elle veut faire en sorte que cette activité disparaisse. Ça fait pas mal le tour de nos manchettes pour ce matin.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcand. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
Le premier ministre Legault et la mairesse de Montréal, Valérie Plante, ont annoncé que Québec et la ville reprenaient le projet du REM dans l'Est, créer une nouvelle structure pour revoir le projet puis essayer de le finaliser d'ici 2029 environ, en tout cas dans les prochaines années. Ce qui fait que la Caisse de dépôt et de placement du Québec, sa filiale Infra, se retire. Le président et chef de la direction de la Caisse est avec nous, Charles Aymon. Monsieur Aymon, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
Je veux juste comprendre d'abord un peu comment tout ça s'est passé, là. Vous avez dit hier que vous aviez une entente avec Valérie Plante, la mairesse, qui prévoyait donc que la Caisse s'occupe de la structure du train puis l'aménagement du territoire, la ville va s'en occuper. Juste comprendre, c'était quoi la nature de l'entente avec Mme Plante?
Bien, c'est une entente par écrit qu'on avait fournie parce que je voulais qu'elle soit ancrée sur ce que la mairesse avait déclaré, c'est-à-dire l'expertise de CDPQ Infra, c'est le projet de transport, la ville, c'est l'aménagement. Puis on assurait qu'il y avait le leadership de CDPQ Infra avec l'appui de la ville sur le transport et vice-versa sur l'aménagement. Puis une interface entre les deux pour qu'on se coordonne. Puis même un comité en haut avec moi, la mairesse et quelqu'un du gouvernement pour qu'il y ait une communication constante. Parce que là, on était rendu à cette étape-là de l'aménagement. Puis aider la mairesse à dire, bon, mais comment vous pouvez faire votre bureau de projet? Si vous voulez qu'on vous aide, ça va nous faire plaisir. Si vous voulez engager plutôt une firme d'ingénieurs à qui on va interagir, c'est correct aussi.
Est-ce qu'elle était d'accord avec le parcours, le tracé du projet?
On n'a jamais eu de confirmation précise. Je sais qu'il y avait des enjeux, puis elle l'a dit à la fin qu'en bout de ligne, c'est sa prérogative, là, je tiens à le dire. C'est la mairesse de Montréal et donc la ville et le gouvernement. Tu peux pas faire ces projets-là sans leur appui. Là. Nous, on était l'exécutant, le maître d'œuvre. Alors, à la fin, ils ont décidé de faire une nouvelle mouture avec des nouvelles régions, avoir un nouveau tracé. Également de ne pas avoir de tronçon au centre-ville parce qu'ils considéraient qu'il n'y avait pas l'acceptabilité sociale. Puis ça, c'est correct.
OK. Mais quand vous aviez ces discussions-là avec elle, là, est-ce qu'elle était d'accord que le REM passe au centre-ville de Montréal, que ça passe sur René-Lévesque, ou si vous saviez qu'elle n'était pas d'accord avec que c'était un élément important du projet? Là?
Mais je pense que ça avait été noté dans le comité d'aviseurs, comité expert. Nous, on a fourni une proposition architecturale qui remplissait 80 % des demandes de ce comité-là. Donc, on a travaillé 150 heures avec ce comité-là. 140 rencontres avec la ville sur un an et demi. Mais à la fin, ils l'ont noté que c'est un élément qui pouvait être un peu problématique. Et nous, on ne pouvait pas le faire non plus d'un point de vue souterrain, des raisons financières, des raisons techniques. Donc, c'était pas confirmé, mais je savais que c'était quelque chose qui pouvait être là un point à la fin qui allait faire en sorte que peut-être ça irait de l'avant ou pas.
Est-ce qu'elle a changé d'idée? Vous dites quoi? En 10 jours, là, c'était plus pareil, là, c'était différent.
Non, quand j'ai répondu hier, je vais être bien clair, dans le cadre des crédits, là, je répondais aux parlementaires, donc je voulais vraiment ramener les faits sur deux choses. On me disait, avez-vous fait une place à la Ville de Montréal? Ben, j'ai dit oui. On a fourni une proposition inclusive, respectueuse de nos champs de compétences, puis on était satisfaite de cet aspect-là. Deuxièmement, on nous a dit, est-ce que vous êtes sorti du REM de l'Est? Ben, j'ai dit non. Il y a un appel par la suite, une dizaine de jours plus tard, puis le gouvernement m'a informé que c'était un nouveau projet. C'est tout.
OK, mais vous avez été surpris de ça?
Bien, surpris. Vous savez, je n'étais pas là, dans un monde où est-ce que je me disais, bien, c'est sûr que le REM de l'Est se fait. Là. On était tout à fait en phase avec notre environnement. On sait que dans les médias, il y avait des critiques. On les entendait. On était sur le terrain. On a consulté 32 000 personnes. Mais je me disais, ça peut être 50-50, puisque, bon, si t'aimes un projet de gouvernance, c'est peut-être parce que le projet a des chances d'aller de l'avant, mais c'était sa prérogative à la fin, puis il restait une décision, puis moi, j'attendais. Alors, on a attendu, puis on a eu la décision finale. Puis c'est bien correct, je tiens à le dire, là.
OK, mais juste qu'on comprenne aussi, pour vous, s'il n'y a pas ce tronçon Centre-Ville-Montréal sur René-Lévesque, le projet n'est pas rentable?
Non, pour nous, ça défaisait un peu là, la thèse initiale du projet. La question initiale qu'on nous pose, vous savez, M. Arcand, on ne dit pas qu'on a la réponse à tout. On nous a posé une question, puis c'est celle-là qu'on répond. Après ça, on a modifié la proposition. On nous a dit comment on peut amener les gens de l'Est et du Nord-Est le plus rapidement, le plus efficacement possible au centre-ville? Moi, c'est la question avec notre équipe qu'on a répondu. Mais si le tronçon est pilé au centre-ville, pour des raisons financières, mais pas juste ça, pour d'autres raisons, l'achalandage ou tout ça, et ça fait plus de sens. Il y a une autre chose que je tiens à dire, c'est que si on optimise des lignes de métro, ce que je comprends entièrement qu'ils veulent faire, là, je spécule, mais peut-être qu'il faut rajouter des wagons au métro. Peut-être qu'il faut automatiser le métro. Mais ça, c'est pas du tout un champ de compétences de la Caisse. Je l'ai toujours dit, là, la Caisse, c'est pas la solution, c'est des PQ Infra. Les enjeux de transport au Québec.
Oui, mais on a reproché à la Caisse d'avoir fait son plan en tenant pas compte du métro, en n'allant pas, puis même en faisant compétition avec le métro jusqu'à un certain point. Mm-hmm. C'est vrai?
Moi, là-dessus, je suis pas tout à fait d'accord, parce que la ligne de métro, les lignes de métro sont saturées. Demandez aux usagers. C'est pas une invention, là. Alors, de ce côté-là, on pense que ça pouvait très bien cohabiter. Et si on n'a pas cet élément-là, ça va être plus difficile. Donc, pour nous, la thèse d'investissement, puis il ne faut pas oublier non plus, là, c'est un tracé qui est élargi, qui va jusqu'à Laval, Lanaudière. Je n'avais pas de précision sur ce tracé-là. Alors, en ce sens-là, pour nous, le gouvernement n'était pas surpris, puis le premier ministre l'a dit, là, c'est un homme pragmatique. OK, un nouveau projet, puis ils vont aller de l'avant, puis on pense toujours qu'il y a un besoin, nous, pour l'Est. Mais il s'attendait à ce que la Caisse, probablement, n'ait pas de l'avant avec ça. Faut comprendre qu'avant qu'on présente ça en décembre 2020, on avait présenté une dizaine de versions de tracés. Une dizaine. Alors, on l'a viré de tous les sens possibles. Et le premier ministre comprenait tout à fait. Il avait même répondu pratiquement là pour nous en disant « Je pense pas que la Caisse va vouloir. » Par courtoisie, il nous a dit « Il y a un nouveau projet. Voulez-vous? » J'ai dit « Non, on décline. Merci. » Ça mettait fin à l'ancien projet. Puis tout est parfait.
Est-ce que je comprends que la Caisse demande une compensation de 100 millions?
Selon le contrat, oui, c'est ce qui est convenu. Puis il n'y a pas d'enjeu. J'ai eu mes discussions avec le gouvernement là-dessus. Puis comme a dit le ministre des Finances...
Mais pourquoi 100 millions?
Ben c'est l'ensemble des études à peu près qu'on a mis de l'avant. Parce qu'il faut comprendre, on dit tout le temps que c'est CDPQ Infra, on dirait qu'on travaille tout seul dans notre bureau. Mais il y a eu des dizaines et des dizaines d'experts locaux, internationaux, des firmes d'architecture ici, Lemay. Je veux dire, il y a tout un travail. Là. Il y a plusieurs experts qui sont là. Puis je vous dirais, par rapport à d'autres projets, pour l'ampleur, c'est à peu près pareil pour le REM1. Quand il y a eu le prolongement de la ligne bleue, je le dis par ses publics, que c'était beaucoup plus court, c'était 60 millions. Mais c'est des études très avancées que le gouvernement va pouvoir se servir. Ça nous fait plaisir de leur donner.
La question de mes auditeurs, c'est ça couvre vos dépenses ou s'il y a une forme de dédommagement que le gouvernement...
Aucun dédommagement.
C'est des dépenses réelles. Vous avez dépensé 100 millions.
Il n'y a aucune pénalité. Là. C'est tout. Puis on leur donne, puis c'est très détaillé. Puis il y a des factures, puis... On n'abuse pas, là. C'est ce que c'est. Il n'y a pas de pénalité, c'est juste nos coûts, puis merci.
OK. La nouvelle mouture ne peut pas s'appeler le REM, si j'ai bien compris.
Bien, écoutez, je ne suis pas vraiment énervé là-dessus, là. Je veux dire, il faut que les gens comprennent, là. C'est le projet communément appelé le REM de l'Est. Je fais juste dire, quand même, on nous disait, est-ce qu'à l'international, il y a des enjeux? Bien, le REM, c'est une marque de commerce dans laquelle on a investi. Il y a 95 % d'associations avec la Caisse. Ça va être une carte de visite importante quand le REM 1 va rouler dans quelques mois. C'est certain que si je sais pas si le projet va aller de l'avant, on sait peut-être même pas si le REM de l'Est, ça va être la même technologie que le REM. Donc, appeler ça le REM, je fais juste dire, c'est une marque déposée qui appartient au déposant, à la Caisse, parce qu'on l'a eu, c'est une propriété intellectuelle. Mais je suis pas trop énervé là-dessus, là.
Ça veut dire que quoi, au besoin, vous seriez prêt à ce que la marque soit utilisée?
Non, ce que je veux dire, c'est qu'on peut l'appeler le REM de l'Est. Là, je veux dire, ils l'ont annoncé, on n'en vient pas fou avec ça. Je fais juste dire que dans le futur, le REM, c'est un train qui va rouler, c'est une carte de visite importante, puis on veut garder quand même le contrôle sur le mot REM, là, parce que c'est quelque chose dans lequel on a investi corps et âme depuis plusieurs années, puis qu'on va se servir à l'extérieur, donc on veut pas qu'il y ait confusion là-dessus, comme n'importe quelle société okay. le ferait. Là.
Est-ce que ça a un effet sur le REM 1?
Non.
Zéro.
Zéro. Le REM 1, il va rouler à la fin de l'année, là, l'antenne Rive-Sud. C'est là-dessus qu'on se concentre. Vous savez, c'est un environnement pas facile, M. Arcan. Hein? Pénurie de main-d'œuvre. Il y a encore la pandémie. Oui, ça va mieux, mais les gens sont peut-être moins malades, mais il y a beaucoup d'absentéisme. Les chaînes d'approvisionnement, la guerre, ça empirait ça. L'inflation, c'est très, très dur pour les sous-contractants et tout le monde. Alors, on essaie, nous, de gérer bien ça, mais moi, je suis toujours en ligne avec l'équipe pour que le REM 1, l'antenne Rive-Sud, roule à la fin de cette année.
OK. Hier, à Québec, on vous a beaucoup questionné sur votre rémunération, qui s'établit à environ 6 millions. Là, il y a une série d'éléments dans cette rémunération. Qu'est-ce que vous répondez à Québec solidaire, entre autres, qui dit « c'est trop cher payer quelqu'un »
Bien, je veux juste ramener le fait que sur ma rémunération de 6 millions, là, il y a 1,8 million qui est pour de la rémunération que j'avais gagnée à mon ancien emploi à la Banque Scotia pour les années 2016, 2017, 2018, donc ça fait longtemps. Et j'allais perdre ces sommes-là. Puis le conseil d'administration de la Caisse a décidé de me les payer, ce qui est assez typique dans l'industrie. Puis moi, j'ai accepté de les reporter à un autre 3 ans. Donc, j'encaisse quand même des sommes que ça fait plus de 6 ans que j'avais gagné, qui étaient du revenu d'emploi. Donc, ma rémunération est de 4,5 millions. C'est pas à moi de la commenter, mais je pense que le président du conseil hier en a parlé. Puis quand on regarde là, en termes d'actifs gérés, on est 65%, je suis 65% plus bas que nos pairs. Donc on veut être responsable dans la rémunération. Je comprends tout à fait le rôle et en même temps, il faut que ce soit minimalement compétitif. Puis je le dis pas juste pour moi, mais pour nos équipes. Mais c'est vraiment le conseil qui décide de ça avec une politique qui est très quantitative. Puis quand ça va bien, ça va par en haut. Puis quand ça va moins bien, ça va par en bas. Puis ça a été le cas l'année dernière.
Ça, c'est mon autre question. Est-ce que votre rémunération pourrait baisser si le rendement de la caisse n'est pas à la hauteur?
Ben oui. C'est, la formule est tranchante, M. Arcan. Il n'y a pas de pitié. J'arrive, moi, en 2020. On a trop de centres commerciaux. C'est pas moi qui les ai faits. Il y a une pandémie 3 semaines plus tard. Ça vaut presque rien. Ma rémunération a été pénalisée, peu importe, que ce soit moi, pas moi. Je suis là pour gérer, régler les problèmes. Puis ça va me suivre pendant 5 ans.
Pourquoi vous êtes venu à la Caisse de dépôt et de placement du Québec? Vous étiez dans le monde bancaire. C'est assez payant, ça, le monde bancaire aussi.
Oui, mais vous savez, j'ai fait ça pendant 20 ans. On a juste une vie. J'avais le défi. Michael me l'a demandé. La Caisse de dépôt, c'est une institution extraordinaire. Je suis un Québécois. Je suis fier. Et puis, à l'époque, je pensais pas être PDG. Là, je suis venu pour me joindre à l'équipe de direction dans un rôle important au Québec. Il y avait des raisons personnelles aussi. Je revenais à Montréal avec ma famille que je voyais pas depuis plusieurs années. Puis je le regrette pas. Et puis c'est un rôle que je me donne à 100%, 24/7. Puis je veux que les Québécois soient fiers de ce qu'on accomplit, moi puis mon équipe.
Je veux vous entendre sur cette nouvelle qui est dans la presse ce matin concernant un placement de la caisse dans la crypto-monnaie avec une firme qui s'appelle Celsius Network, qui, semble-t-il, a des problèmes de règlement. Là, c'est un univers nouveau puis qui est un peu... Ça peut basculer d'un un bord ou l'autre. Là. Pourquoi vous avez mis de l'argent? Puis d'abord, est-ce que c'est vrai que ça peut aller jusqu'à 300 millions? De la caisse?
Non, c'est pas une somme de cette ampleur-là. C'est à la ronde totale. Ce que je vous dirais, premièrement, c'est pas un investissement dans la crypto-monnaie. On n'a aucun intérêt à investir puis spéculer sur les crypto-monnaies. On investit dans un modèle d'affaires qui est la chaîne de blocs, ou si vous me permettez en anglais, le blockchain, qui est une nouvelle technologie dans le Web3 qui va peut-être révolutionner tout ça. Premièrement, Celsius, c'est une entreprise, c'est un leader mondial. C'est des milliards de revenus. C'est une entreprise très profitable. Et nous, on a seulement investi parce que cette direction-là, l'équipe de direction, puis la compagnie, veut discuter avec le régulateur pour que c'est un endroit où il n'y a pas encore de réglementation, mais qui va perdurer dans certains aspects des modèles d'affaires. On est en discussion constructive là, avec le régulateur. C'est pas que la compagnie sauve ou veut pas le faire. C'est nous qui est même proactifs. Mais le régulateur, des fois, il essaie de comprendre des nouveaux modèles d'affaires, dire comment qu'on amène ça dans un cadre légiféré qui va protéger le consommateur. Mais on n'est pas dans la crypto-monnaie du tout. C'est la chaîne de blocs qui permet, en fait, de transférer, sécuriser des actifs.
Donc, vous n'avez pas l'intention à la caisse d'investir dans la crypto-monnaie?
Ben non. C'est pas...
Ça a l'air clair comme réponse.
Non, ben écoutez...
Ça vous tente pas pantoute, là?
Ben, on n'est pas dans des spéculateurs de crypto-monnaie. Ça se peut que dans un fonds là, d'un gestionnaire externe qui a peut-être un petit montant de 500 000, 1 million qu'ils aient parce qu'ils veulent tester ça, mais non, je veux rassurer tout le monde, là, on n'est pas rendu là. Nous, c'est que la crypto-monnaie, il y a une façon de faire un pont vers tout ça, qui est les actifs numériques, digitaux, et puis c'est la chaîne de blocs qui est vraiment intéressante pour nous. Ça, c'est une façon de pouvoir transférer, sécuriser des fonds, puis c'est une nouvelle technologie, puis ça va être quelque chose qui est très important. Puis ça nous aide à être intelligents par rapport à des actifs qu'on a dans le secteur traditionnel bancaire. Parce que si ça vient briser certains modèles d'affaires qu'on détient, faut le savoir.
En terminant, les Québécois qui regardent leur placement actuellement ont mal à la tête un peu, ouais. Trouvent que le portefeuille bascule, ça brasse. Quelle lecture vous faites de ces presque 6 premiers mois de l'année, là? Puis qu'est-ce qu'on peut projeter pour la fin de l'année?
Écoutez, je ne veux pas faire de cachette, ça va être une année extrêmement exigeante, 2022. Historiquement exigeante, en tout cas jusqu'à présent. Vraiment, il n'y a pas beaucoup d'endroits où se cacher. Quand les indices boursiers baissent de moins 10 à moins 25 % et les obligations baissent de moins 10 %, c'est très rare. C'est pas arrivé depuis 1973. Deuxième chose, c'est le pire début d'année des obligations gouvernementales depuis 1920. L'avantage qu'on a, c'est qu'on a des actifs moins liquides dans le secteur privé, en infrastructure, en immobilier, placement privé, qui dans un contexte d'inflation comme ça sont plus résilients. L'important, c'est qu'on peut pas empêcher le marché de baisser, c'est ce qu'on peut faire mieux dans ces circonstances-là pour que ça baisse moins. Mais est-ce qu'on peut s'attendre que ce soit des indices qui soient en territoire négatif en 2022? Moi, je pense que oui, parce qu'il y a un conflit en Ukraine qui a pas l'air à vouloir se résoudre très rapidement. Les taux vont monter encore beaucoup. Est-ce que le pire de ça est derrière nous? Qu'est-ce qui est déjà dans le marché? C'est à voir. Mais je comprends les gens que c'est quand même... Ça fait 3 ans que ça montait beaucoup. Mais quand je suis arrivé PDG de la Caisse, j'étais en retard de 2 ans. La pandémie a comme recréé une espèce d'effet d'engouement. mais c'était clair après des années que ça allait monter, qu'avec une hausse des taux comme ça, puis une baisse de la croissance, il fallait s'y attendre. Faut toujours garder un peu de perspective aussi, que ça a tellement monté depuis 2-3 ans. Regardez ça au net avec ce qui s'en vient, puis je pense que quand
une
même...
Une mauvaise année.
Ben ça arrive, hein. Je veux dire, ça fait que presque 10 ans qu'il n'y en a pas eu une.
Merci beaucoup d'être venu ce matin, M. Émond.
Toujours un plaisir.
Charles Émond est le président et chef de la direction de la Caisse de dépôt et de placement du Québec.
L'essentiel de Paul Arcan. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
Alors, il y aura point de presse du Dr Luc Boileau, qui est le directeur national de la santé publique par intérim à 11h ce matin. On sait déjà qu'il va annoncer que dans 10 jours, le port du masque ne sera plus obligatoire. De façon générale, il y a des exceptions. On peut penser au réseau de la santé, on peut penser au transport en commun. Mais globalement, donc, il ne sera pas interdit, mais il ne sera pas obligatoire, comme c'est le cas actuellement dans les milieux de travail ou encore dans les magasins. On regarde ça avec le Dr Carl Weiss. Dr Weiss, bonjour.
Oui, bonjour, M. Arcand.
La première question, dans quel contexte, selon vous, on devrait quand même, là, une fois cette obligation levée, garder le masque?
Alors, il y a quand même 2 endroits où on veut garder le masque. Donc, ce qui est le réseau de la santé, on va dire, parce que il y a des gens vulnérables qui viennent dans les hôpitaux, il y a des gens vulnérables, disons, les personnes âgées, par exemple, qui pourraient être dans certains centres de soins prolongés, etc. Et on veut garder aussi dans les transports en commun, parce que les transports en commun, c'est quand même un risque où les gens sont tassés à l'occasion. Là, heureusement, la société revient à une normale, donc il y a plus de monde dans les transports en commun. Et il faut pas oublier non plus que la grippe, l'influenza, fait un petit retour au Québec ces dernières semaines, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de cas. En réalité, on a eu plus de cas, je vous dirais, les 2 dernières semaines au Québec de grippe que dans les 2 dernières années mis ensemble. Donc, il y a, je vous dirais, des endroits où on pourrait garder le masque pour diminuer, si vous voulez, l'impact potentiel de transmission de la COVID ou des endroits où de la population qui est présente, si vous voulez, est plus à risque, comme le système de santé.
Par exemple, en milieu de travail, et là, je parle pas du réseau de la santé, mais dans les magasins, dans les usines, par exemple, est-ce que, selon vous, on devrait permettre aux employés de pas porter le masque?
Oui, ben, je pense qu'on est rendu à une étape où on pourrait lever les mesures. Maintenant, ne pas porter le masque ne veut pas dire que c'est pas optionnel. C'est-à-dire, on peut pas empêcher les gens de porter un masque, et les gens, s'ils se sentent confortables à porter un masque, s'ils pensent que pour eux, il y a une protection parce que ils se sentent vulnérables ou ils ont quelqu'un de vulnérable dans leur entourage, rien ne les empêche de porter un masque. Alors, il faut savoir que l'efficacité des masques a été démontrée. Donc ça, on peut plus personne ne peut le réfuter. On sait, par exemple, que si quelqu'un porte un masque, je vous dirais dans la façon suivante. Les masques dits chirurgicaux sont plus efficaces que les masques en tissu. Et les masques N95, évidemment, sont encore plus efficaces, mais je pense pas que les masques N95 soient utiles pour l'immense majorité des gens et dans l'immense majorité des circonstances. Donc, par exemple, des gens qui porteraient des masques KN95 ou N95, c'est à mon sens pas très utile, même s'ils sont très efficaces. Mais quand on parle des autres masques, c'est des masques qui diminuent de à peu près, on va dire, entre 70 et 80% le risque d'attraper la COVID. Et donc, s'il y a des gens qui, de façon optionnelle, veulent porter un masque, il n'y a aucun problème. Maintenant, quand on décide d'enlever les masques à tout le monde, on a quand même l'expérience qui se fait actuellement en Europe. On a l'expérience de quasiment toutes les autres provinces canadiennes, mis à part l'île du Prince-Édouard. Et on a l'expérience des États-Unis où le port du masque est depuis très longtemps enlevé. Donc, on voit que, en dépit du nombre élevé de cas de COVID qu'on a eu, le système hospitalier n'a pas été inondé, ne s'est pas effondré, parce qu'on en a déjà parlé à plusieurs reprises. Pas tous les patients qui rentrent à l'hôpital avec la COVID ont la COVID vraiment comme diagnostic principal. On a des moyens de traiter la COVID beaucoup plus efficaces qu'on avait dans le passé. Et il faut encourager l'utilisation des médicaments qu'on a disponibles ou des traitements qu'on a disponibles pour réduire la sévérité de la COVID chez les patients à risque. Donc, on a toutes sortes, si vous voulez, de choses dans notre menu qui ont quand même changé la situation par rapport à ce qu'on vivait il y a 1 an et demi ou 2 ans.
Très bien, merci beaucoup encore une fois, Dr Weiss. Bonne journée.
Merci,
au revoir. Dr Carl Weiss, qui est microbiologiste et spécialiste des maladies infectieuses, à l'Hôpital général juif de Montréal. Alors, le point de presse aura lieu à 11h ce matin, puis on verra à ce moment-là les modalités.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcand. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
On va demeurer en santé. Hier, le directeur national qui s'occupe du cancer au Québec est arrivé avec cette idée, une proposition en fait qui d'ailleurs a été faite au ministère de la Santé. Normalement, si vous avez un diagnostic de cancer, on est supposé vous opérer dans les 28 jours. En pratique, c'est pas toujours le cas. Et là, on est en train de nous dire, le docteur Latreille, il dit, il faudrait peut-être commencer à pondérer les cancers. Donc, cancer prostate, cancer de la thyroïde, donc c'est peut-être pas aussi urgent qu'un cancer, par exemple, je ne sais pas, du poumon. Je fais le point avec Dr Martin Champagne, qui est président de l'Association des médecins hématologues et oncologues du Québec. Dr Champagne, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
D'abord, on va regarder les faits pour commencer. Actuellement, au Québec, quelqu'un qui reçoit un diagnostic de cancer, est-ce qu'il est, dans 100 % des cas, opéré dans les 28 jours? Quand il a besoin d'être opéré, là.
Sûrement pas. Les délais sont plus importants que ça. Présentement, il y a environ 10 %, donc un patient sur 10 qui est opéré hors délai. Ce report-là peut tenir à différentes circonstances, mais il y a déjà un certain nombre de patients qui attendent plus longtemps. Et déjà, on voit que les patients qui ont des cancers de la thyroïde, des cancers de la vessie, des cancers de la prostate, des cancers de la peau, sont les patients qui sont le plus longtemps hors délai parce que la biologie de ces cancers-là apparaît plus lente dans plusieurs cas. Ceci étant dit, quand j'ai un patient dans mon bureau, ce qui lui importe, c'est de savoir quel est le statut de sa maladie. Donc, est-ce que je peux être guéri? Est-ce que je peux être traité? Donc, d'avoir un bilan complet. Puis, une fois qu'on a fait le constat de l'étendue de la maladie, c'est, docteur, quand est-ce que je commence mes traitements? Que ce soit une chirurgie ou que ce soit donc un traitement de chimiothérapie. Alors, c'est un peu surprenant que la Direction québécoise du cancer nous dise que on est prêt à faire des compromis, peut-être circonstanciels, plutôt que de trouver des solutions. Il faut comprendre que cette paramètre, cette norme du 28 jours, là, c'est une photo très très particulière. Si vous allez sur le circuit Gilles Villeneuve, prenez une photo d'une F1, vous savez pas sur la photo, est-ce qu'elle recule, est-ce qu'elle avance vite, est-ce qu'elle avance lentement. On peut pas, c'est un portrait qui est fixé dans le temps. Alors, le 28 jours, il y a déjà des patients qui attendent depuis longtemps. J'ai vu dans les derniers jours une patiente qui a trouvé une bosse à son sein en septembre dernier. Elle vient d'aboutir dans mon bureau pour sa chimiothérapie préventive. Elle a eu des délais quant à l'investigation, quant à la chirurgie, quant à la prise en charge, toutes ces séquences-là. Donc, vous avez une patiente qui trouve une lésion suspecte de cancer, puis beaucoup. Pour boucler la boucle, on a un délai de presque 7 mois. Ça marche pas, ça.
Ça, je comprends, Dr Champagne, mais moi, ce qui commence à m'énerver vraiment dans le discours, là, c'est que pour justifier des retards ou des reports, on nous sort la phrase « le bon traitement pour le bon patient au bon moment ». Moi, quand j'ai le cancer, c'est moi le patient, c'est le moment de me traiter, puis je veux avoir le bon traitement. T'sais, la phrase là, énervante que j'entends depuis hier, là, je pense que les Québécois en ont soupé de ça.
Je vais vous laisser le soin de l'interpréter comme vous voulez, mais dans mon expérience, le bon patient, il est dans mon bureau. Je ne vois pas de patients qui se présentent pour voir un oncologue qui n'ont pas une raison très sérieuse de voir un oncologue. Alors, la problématique, quand on l'applique à la cancérologie, elle m'apparaît assez farfelue. Je vous rejoins là-dessus parce que je suis, j'oserais pas dire que je suis irremplaçable, mais sauf que je suis la personne qui va lui donner le bilan, le complément de bilan, puis qui va le diriger vers le chirurgien oncologue ou vers le radio-oncologue. Donc, pour moi, tous les patients qui se présentent dans mon bureau sont les bons patients. Il n'y a rien qui est farfelu dans cette démarche-là.
Par exemple, de dire on va attendre plus, même si dans les faits, ça existe déjà, on le voit, là, c'est pas une forme de justification pour expliquer le problème d'accès, c'est-à-dire le problème d'accès à un spécialiste comme vous, problème d'accès à un bloc opératoire. Donc, on va dire aux gens, comme on peut pas vous le donner, on va vous sortir un élément scientifique pour vous dire que pour vous, ça presse moins que pour d'autres.
Je suis très inquiet. Il y a du sous-diagnostic, par exemple, dans le cancer du côlon. On sait qu'on a moins diagnostiqué de cancer du côlon. Puis on sait que la liste d'attente pour les coloscopies est passée de 100 000 patients, ce qui était déjà énorme, à plus de 150 000. Ce qu'on souhaite du ministère, c'est qu'on ait des solutions concrètes. Est-ce qu'on a le personnel? Est-ce qu'on a le budget? Est-ce que ça va fonctionner? Présentement, on sait que la pathologie, c'est un des goulots d'étranglement dans la reprise en oncologie. Quand j'envoie un paquet pour faire des analyses complémentaires dans un grand centre universitaire, des analyses que je ne peux pas faire ici sur place dans mon centre hospitalier, ça peut prendre jusqu'à 2 semaines avant que le paquet soit ouvert, puis soit codifié, donc qu'on puisse le mettre dans un langage intelligible pour les machines qui vont faire l'analyse. Alors, tout ça, ce sont des délais qui s'ajoutent, qui n'ont rien à voir avec la COVID. Vous avez tout à fait raison. Alors, on s'attend à ce que le ministère nous donne des solutions pratiques pour qu'on puisse arriver, parce que le seul exemple que je puisse vous donner du mauvais patient au mauvais moment, c'est quand je revois un patient avec un rendez-vous, puis que je n'ai pas encore les résultats d'analyse, parce que c'est pris quelque part dans le système. Alors ça, on a besoin de solutions concrètes, on a besoin donc de ressources humaines, puis on a besoin de, par exemple, un exemple très concret, la dame qui avait une bosse au sein, qui a besoin d'un accès rapide. Il faut avoir des guichets d'investigation rapides pour l'ensemble des tumeurs, qu'on puisse donc référer les patients chez qui on a des suspicions de cancer, pour qu'on puisse donc boucler la boucle en dehors du système hospitalier rapidement, donc et prendre charge de ces patients-là sans qu'ils aient à consulter dans des cliniques sans rendez-vous ou sans qu'ils aient à passer par toutes sortes d'étapes lentes de radiologie ou de biopsie.
En terminant, là, vous me corrigerez, mais on n'a toujours pas de registre du cancer au Québec pour avoir un portrait global de la situation en temps réel?
On n'a rien en temps réel. C'est toujours difficile d'établir ce genre de choses-là en temps réel, mais présentement, on a un registre qui va aider les historiens à faire un portrait du cancer au Québec il y a plusieurs années. Les plus récentes données qui viennent d'être mises tout récemment datent de 2017. Donc, avant qu'on sache, par exemple, quel est l'impact de la COVID, comment on peut répondre aux besoins de la COVID, on en a pour plusieurs années avant de savoir. Donc, c'est bien malheureux. Effectivement, on peut pas mettre en temps réel toutes les données sur le cancer, mais on aurait besoin de ces données-là pour pouvoir réagir et apporter des solutions pratiques, donc pour répondre aux besoins des patients.
Autrement dit, l'impact COVID, on va le savoir dans 2-3 ans.
Peut-être dans 2-3 ans, si vous êtes optimiste.
Merci, Dr. Champagne.
Bonne journée. Mmh,
OK, au revoir. Dr. Martin Champagne est le président de l'Association des médecins hématologues et oncologues du Québec. Donc, sur ces délais qu'on veut modifier, mais dans les faits, on le voit, il y a 10 % des cas où ça dépasse ce qui est normalement prévu.
L'essentiel de Paul Arcan. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
Bénédicte, une histoire bien triste. Une éducatrice en garderie de Montréal qui finalement admet avoir frappé 4 enfants.
Ouais, et ce qui a permis de coincer cette femme-là, c'est une collègue qui a réussi à la filmer à son insu. L'accusée dans cette histoire-là, c'est Nassira El-Maini, 31 ans. Hier, elle a plaidé coupable à 5 chefs d'accusation de voies de fait. Elle travaillait à la garderie Kids, c'est dans le quartier Villeray. Elle travaillait là depuis 2015. Les faits se sont déroulés, je te dirais, sur une dizaine de jours, en 2020. Et à ce moment-là, bon, il y a une collègue de la garderie qui remarque qu'elle a des comportements pas appropriés, à des comportements qui sont violents quand même, on va le dire comme ça. Et là, ça dégénère. Elle la prend sur le fait, elle la filme. Et sur les différentes vidéos, ce qu'on peut voir, c'est la femme qui frappe des enfants, surtout pendant la sieste. Dans le résumé des faits, on donne comme exemple, par exemple, qu'elle place une fillette de façon agressive sur son matelas, la gifle au visage, la déplace pour qu'elle se couche, l'enfant qui pleure, elle en tire un autre par les cheveux, donne des tapes sur la tête d'un jeune garçon, soulève un enfant par le bras et la jambe et le lance par terre. L'affaire, c'est que l'âge moyen des petites victimes, c'est de 2 ans. Donc, le 8 décembre, la directrice de la garderie, elle est mise au courant, elle avise les parents, congédie l'éducatrice et l'éducatrice niait tout sur le coup. La directrice et les parents, évidemment, sont sous le choc. C'est une femme qui travaille là quand même depuis 5 ans. Là. J'ai parlé à la directrice, elle préfère ne pas être nommée, mais accepter quand même de nous parler des conséquences que ça a eu chez elle.
Quand on a découvert cette situation, on était vraiment déçus, surpris, étonnés qu'une personne qui travaille avec nous, qu'on a fait beaucoup de confiance, qu'il a gardé des enfants et il avait cette agressivité contre les enfants.
L'accusée a supplié la directrice de la garderie de rien dire aux parents, mais elle a quand même rapidement contacté les policiers qui sont venus arrêter la femme. Donc, elle a reconnu sa culpabilité. Hier, on peut écouter à nouveau la propriétaire.
Pour moi, c'est plus important la sécurité des enfants. Donc, je suis contente que dans ce moment, elle est coupable et j'espère qu'il va avoir des conséquences parce que c'est pas acceptable une maltraite à un enfant comme ça.
Et là, j'ai hâte de voir justement quelles seront les conséquences, quelle sera la peine, en fait, parce qu'on sait que la couronne a l'intention de demander une peine de détention dans ce dossier-là, ce qui n'est pas le cas de la défense. Donc, ça va revenir devant la Cour au mois de septembre.
Maintenant, l'homme qui a brûlé son ex-conjointe à Québec écope finalement de 20 ans de prison.
Et c'est quand même un message fort, on va le dire, qu'envoie le juge Guy Deblois pour les victimes de violences conjugales. On se rappelle que c'était une histoire horrible, un crime complètement ignoble. Ça se passait en novembre dernier, il faut le rappeler, le Frej Haj Messaoud qui avait plaidé coupable, accusation de tentative de meurtre. On avait évité un procès, mais le 9 août 2019, l'homme avait aspergé son ex-conjointe d'essence. Il avait allumé un briquet à côté, l'avait ensuite laissé brûler vive, était parti. La mère de la victime était là, la fillette aussi, qui avait assisté à la scène. Elle avait été brûlée au troisième degré sur 30 % de son corps. Des douleurs atroces. Encore aujourd'hui, elle a des séquelles psychologiques, des séquelles physiques aussi. Son ex-conjoint, c'était un homme qui était jaloux, contrôlant, la suivait, acceptait pas qu'elle voie un nouvel homme. Et l'affaire, c'est que ça faisait plusieurs années qu'elle subissait de la violence conjugale. Et dans son jugement, le juge de Blois dit « La violence conjugale, c'est un fléau qui doit être fermement dénoncé. » Personne dans un couple a le droit de contrôler l'autre, de le punir en cas de résistance. La poursuite demandait une peine de prison à vie. La défense réclamait 7 à 15 ans. On y va avec 20 ans, mais de ce que j'entendais des experts, c'est quand même une des peines les plus sévères dans ce genre de dossier-là qu'on voit aujourd'hui.
On va parler avec le procureur de la Couronne dans le dossier un petit peu plus tard dans l'émission.
L'essentiel de Paul Arcan. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
Maintenant à Québec, une sentence importante qui a été donnée à Frej Haj Messaoud, qui a été condamné pour tentative de meurtre sur son ex-conjointe. C'est un crime horrible. C'est une femme qui a vécu d'abord la violence conjugale, la violence verbale, la violence physique. Et son ex-conjoint avait tenté de la brûler vive en pleine rue à Québec. C'était au mois d'août 2019. Maître Mathieu Rochette est avec nous. Il est procureur aux poursuites criminelles et pénales. Maître Rochette, bonjour.
Bonjour, M. Arcan.
Peut-être d'abord, pour le bénéfice des auditeurs, nous remettre dans le contexte. On a compris que le couple s'était séparé, que monsieur n'acceptait pas cette rupture, mais il y avait quand même un historique là, de violence conjugale.
Exact. En fait, c'est un couple qui était ensemble là, depuis la fin des années 2000, en fait, le début des années 2010. Et ce qui a été démontré là, lors de la preuve sur la peine, c'est que madame a vécu dans un climat là, de violence conjugale pendant tout ce mariage-là. Et ça a culminé tout ça là, à un divorce, une séparation en 2019 que monsieur a vraisemblablement pas accepté et qui l'a amené là, à commettre les gestes qu'il a commis là, au mois d'août 2019.
Et qu'est-ce qui est arrivé au mois d'août 2019? Qu'est-ce qui a fait là, qu'il est allé encore plus loin qu'avant?
C'est ça. Donc, il y a un élément déclencheur, à notre avis, qui est le fait que madame, a rencontré quelqu'un à l'endroit où elle travaillait, sur la rive sud de Québec. Et monsieur l'a appris, évidemment, parce que monsieur la suivait. Là. Monsieur, c'est un chauffeur de taxi, puis on a eu accès à toutes ses tracés GPS. On voyait que c'est un individu qui, depuis un mois et demi, là, cernait sa résidence, cernait son lieu de travail. Donc, a été au courant que madame fréquentait un nouvel homme. Et là, c'est ce qui a déclenché là, l'élément qui a poussé monsieur à agir là, de la sorte.
C'est un couple qui a des enfants aussi.
Exact. Le couple a deux enfants. Les événements se sont produits devant un des deux enfants du couple. En fait, madame était revenue chez elle là, en soirée, elle déchargeait son coffre de véhicule quand elle a senti la main de M. Messaoud là, sur sa bouche. elle a senti quelque chose qui lui était versé aussi sur la tête à ce moment-là. Elle, au début, elle pensait que c'était de l'acide. Et dans un ultime geste là, pour tenter de sauver sa vie, madame s'est excusée à M. Messaoud, qui a fait ci de ça, là, évidemment, puis là, l'a allumé. Madame a brûlé vive, là.
Et elle a des blessures quand même importantes, là, sur quoi? 30 % de son corps, je crois.
Oui, on parle de 30 % de blessures, en fait, de brûlures sur tout son corps, mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que quand elle a été traitée, qu'il faut faire les greffes de peau pour réparer ce 30 %-là, on vient prélever aussi de la peau saine. Là, dans son cas, c'était sur les cuisses, et c'est ce qui fait en sorte que la chirurgienne plastique disait que madame avait 50 % de son corps qui était cicatrisé.
Puis on comprend aussi, on parle des blessures physiques, mais on imagine les blessures morales. C'est-à-dire que c'est une femme qui vit, j'imagine, avec des séquelles, dans la peur, il y a encore de la douleur, il y a tout ça encore aujourd'hui, là.
C'est une dame qui sera plus jamais la même. Sa mère disait lors des représentations sur la peine qu'elle ne reconnaissait plus sa fille. C'est des problèmes d'anxiété, d'hypervigilance, de détresse, de stress post-traumatique. C'est une dame qui va avoir énormément de difficultés à être en relation avec quiconque à l'avenir. C'est une dame qui dit qu'elle a perdu toute sa féminité. Hein. C'est ce qui lui a enlevé. En fait, M. Messaoud a délibérément choisi le feu pour la faire souffrir. Hein. Il disait qu'il voulait la faire souffrir autant qu'il l'a fait souffrir. Et écoutez, son intention, c'était clairement de la tuer. Puis s'il ne réussissait pas, ben, elle allait s'en souvenir toute sa vie qu'elle n'a pas réussi.
Il y a un élément que je ne suis pas certain d'avoir compris. Semble-t-il que même en étant détenu, il exerçait un certain contrôle sur son ex-conjointe. C'est vrai, puis c'est vrai de quelle façon?
Oui, c'est ça. En fait, ce qu'on avait réussi à démontrer, c'est que même alors qu'il était détenu, bon, je ne suis pas un avocat spécialiste en droit des enfants, là, mais étant donné leur situation avec les enfants, devait encore apposer sa signature, par exemple, pour des autorisations médicales pour les enfants, puis il faisait par exprès, là, justement, pour retarder tout ça ou tout simplement bloquer sa signature. Donc, c'est encore un contrôle que monsieur exerçait, même alors qu'il est détenu. Alors, c'était ça, là.
OK. La défense, demandait entre 7 et 15 ans. Vous demandiez la prison à perpétuité. Le juge a tranché pour 20 ans. Dans la jurisprudence, pour un cas comme celui-là, 20 ans, est-ce que c'est une peine sévère, selon vous?
J'ai jamais vu ça. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour un individu qui commet une tentative de meurtre en matière de violence conjugale au Québec et qui est sans antécédent judiciaire, et même s'il a des antécédents judiciaires, 20 ans, nous, quand on s'est positionné pour plaider notre peine, on n'a pas trouvé des chiffres comme ça.
C'est quoi habituellement?
C'est ça. En fait, la Cour d'appel en 2010 s'est prononcée dans une décision tentative de meurtre contexte conjugal. Dans la décision Roy, on avait imposé une peine de 15 ans d'emprisonnement. Et ce qu'il faut dire aussi, et le juge l'explique bien dans son jugement, c'est que il y a un arrêt de la Cour suprême qui s'appelle l'arrêt Friesen qui concernait la maltraitance au niveau des enfants, mais qui a envoyé un message aux juges d'instance, là, ceux qui entendent les représentations sur la peine, en leur disant que quand les fourchettes de peine précédentes là, correspondent plus aux standards que la société s'attend, là, puis que le Parlement, aux initiatives aussi du Parlement, ben il invite, la Cour suprême a invité les juges à se distancer de ces fourchettes-là et d'imposer des peines plus sévères. Puis là, nous, on avait fait le parallèle en disant, ben là, il y a la maltraitance sur les enfants, mais en matière de violence conjugale, là, clairement, le Parlement prend des initiatives. Vous le savez, la société change. On est rendu ailleurs. Puis ça, le juge le reprend dans son jugement. Puis il dit que c'est un des motifs là, pour lesquels il va s'écarter des fourchettes antérieure, là, établie par la Cour d'appel.
Maître Rochette, d'abord, merci, puis bravo pour votre travail. Merci d'avoir pris le temps avec nous.
Merci, Maître Charquin.
Au revoir. Maître Mathieu Rochette est procureur aux poursuites criminelles et pénales. C'est lui qui pilotait ce dossier. Une sentence sévère, heureusement, mais c'est un cas de violence extrême. On en parlait, Bénédicte, plus tôt ce matin. C'est épouvantable, parce que cette femme a vécu puis vit encore.
Oui, et ce qui est marquant...
Après tant d'années.
quand on parle de brûlure aussi, là, le geste qui a été choisi, c'est ça qui a été statué, je le disais, dans le jugement où ça revient souvent, là, c'est d'une violence extrême.
C'est 23.